chantez pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour chers amis auditeurs et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Alors Emmanuel, cette émission aujourd'hui est dédiée à Nathanaël. Dieu donne, mais Dieu a repris. Elle est également dédiée à ses parents, à sa famille, à ses frères, donc ses parents Chantal et Jean-Claude Bonnemère, à son épouse Cindy et à ses deux petites filles.
Alors Martine, aujourd'hui, pour cette émission spéciale, vous allez nous parler et nous éclairer sur les sept sacrements de l'Église catholique. Quel chant avez-vous choisi ?
Alors j'ai choisi un chant qui est plus dédié à la prière, « Tiens ma lampe allumée », dont le compositeur, auteur-compositeur est Jean-Claude Giannada. Il est édité au studio Signe Musique et publié justement dans Signe Musique numéro 10. Et je précisais donc que c'est un chant qui incite à la prière et qui est également dédié à tous ceux qui souffrent dans le deuil, la maladie et le doute.
On l'écoute. Alors Martine, on vient d'écouter ce chant, Tiens ma lampe allumée. Je vois que vous êtes assez touchée par ce chant. Première question, comment aborder les sept sacrements ?
Alors on dit septenaire quand on parle des sept sacrements, puisque depuis le XIIe siècle, Emmanuel, leur nombre a été fixé à sept. Alors, comment les aborder ? Tout simplement par ordre alphabétique. Ce qui donne baptême, confirmation, eucharistie, mariage, onction des malades, ordre, pénitence. Par le nombre de fois où ils peuvent être administrés, ceux qui le sont une fois, baptême, confirmation, mariage, ordre, les autres plusieurs fois, eucharistie, onction des malades et pénitence. Par les personnes habilitées à les administrer, prêtres, pour le baptême, l'eucharistie, l'onction des malades, pénitence, mariage, évêques, pour les confirmations, l'ordre, à ces deux ministres traditionnels, il faut ajouter le diacre pour le baptême et le mariage. De plus, Emmanuel, toute personne en cas de péril de mort peut conférer le baptême. Mais à la suite du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique propose une manière très suggestive de lire et d'organiser le septenaire sacramentel. Par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, qui sont les sacrements de l'initiation chrétienne et posent les fondements de toute vie chrétienne. La pénitence et l'onction des malades sont dits ensemble sacrements de la guérison, tandis que l'ordre et mariage sont nommés sacrements au service de la communion. Mais je vous propose, Emmanuel, d'entrer dans chacun de ces trois ensembles.
Donc le premier ensemble est donc l'initiation chrétienne.
Tout à fait. Lorsqu'on emploie ce terme d'initiation chrétienne, il faut entendre, selon l'habitude chrétienne, le verbe « initier » au passif. On est initié par Dieu lui-même qui donne part à sa vie. C'est Dieu qui initie chacun au ministère du Christ. C'est Dieu qui est l'acteur premier. Il agit par l'Église. Et le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont donc bien les sacrements de l'initiation chrétienne.
Alors Martine, commençons par le baptême.
Ah, bien Emmanuel, très bien, vous commencez par le commencement. Donc, le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, bien sûr, le porche de la vie dans l'esprit et la porte d'entrée à tous les autres sacrements. Par lui, nous sommes insérés dans l'unique corps du Christ. Alors, revenons à la liturgie de la nuit pascale. L'Église fait solennellement mémoire des grands événements de l'histoire, du salut qui préfigurait dans le mystère du baptême. Depuis l'origine du monde, l'eau est la source de la vie et de la fécondité. D'ailleurs, le deuxième verset de la Bible nous le rappelle. L'arche de Noé n'est-elle pas une préfiguration du salut par la mort du péché et la naissance de toute justice ? C'est surtout la traversée de la mer, véritable libération des fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte, qui annonce la libération opérée par le baptême. À la fin de l'exode au désert, devenu alors peuple de Dieu, les fils d'Israël reçoivent le don de la terre promise à la descendance d'Abraham après la traversée du Jourdain. Alors, toutes ces préfigurations de la première alliance trouvent leur achèvement dans le Christ Jésus. En effet, Jésus commence sa vie publique après s'être fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Après sa résurrection, il donne cette mission aux apôtres. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on peut se rapporter à l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Le baptême se réfère donc à la parole du ressuscité qui lui donne un statut évangélique. Dire que Jésus a institué le baptême, ce n'est pas simplement désigner un événement évangélique précis ou une parole de Jésus qui serait à l'origine du sacrement baptismal, mais c'est entrer dans le mystère de Jésus baptisé au Jourdain, puis dans la mort de la croix et ressuscité. le mystère pascal. Alors, avec Jean-Baptiste, sous le signe de l'eau, le baptême est geste de purification. Avec Jésus, plongé dans l'eau du baptême, c'est plongé dans la mort du Christ et la mort au péché pour ressusciter avec lui, pour la vie éternelle. Au rite principal de l'eau s'ajoutent également des rites complémentaires. L'onction du Saint-Crème signifie le don de l'Esprit-Saint au nouveau baptisé. Le vêtement blanc symbolise que le baptisé a revêtu le Christ. Le cierge allumé au cierge pascal signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Le baptisé est aussi incorporé à l'Église et le baptisé devient membre du peuple de Dieu.
Alors continuons bien sûr par la confirmation.
Alors la confirmation optimise le don de l'Esprit-Saint reçu au baptême. Confirmo en latin veut dire affirmer, fortifier, rendre fort dans la foi. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine, le Père, et trinitaire, Père, Fils et Esprit sont indissociables. Elle renforce le lien des baptisés avec l'Église. Bien sûr, vivant en Église, le confirmant rentre dans une obéissance filiale beaucoup plus profonde. L'Église, témoin de l'engagement du confirmant, profite elle aussi des dons de l'Esprit et elle grandit. Dieu, à l'initiative de l'appel, en effet, quand l'évêque appelle le confirmant par son nom, l'interpellé prend conscience qu'il est devancé par Dieu. La dynamique de l'appel est consolidée par l'imposition des mains et l'onction, signe d'appartenance à Dieu, d'un attachement, d'une protection et d'une responsabilité confiée. L'Esprit-Saint est donné en vue d'une mission, bien sûr, répandre et défendre la foi, avec un grand F, en vrai témoin actif dans la communauté chrétienne, pour aller dans le monde. C'est un rappel de l'amour de Dieu, où le moment est venu de s'en remettre à lui, de passer d'une attitude volontariste à une joie confiante.
Et nous terminons donc par l'Eucharistie.
Ah, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, sacrement de l'amour, source et sommet de la vie chrétienne. C'est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. L'Eucharistie, c'est donc la reconnaissance en action de grâce en grec. Alors, l'Eucharistie, c'est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction pour laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits à travers la création, la rédemption et la sanctification. La veille de sa passion, Jésus a célébré la dernière scène avec ses disciples, disant ceci : « Faites ceci en mémoire de moi. » Cet ordre du Seigneur, nous l'accomplissons en célébrant le mémorial de son sacrifice. Dans l'Eucharistie, le Christ donne son corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude. Le mémorial dans les Écritures n'est pas le simple souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles de Dieu que Dieu accomplit pour les hommes aujourd'hui encore. C'est faire mémoire dans l'aujourd'hui pour l'avenir. Le corps et le sang donné, le salut donné, c'est un événement d'une fois pour toutes efficace aujourd'hui, car rendu présent ou dit représenter, actualiser liturgiquement et sacramentellement à chaque Eucharistie. L'efficience, le phénomène du mystère, atteint tout le temps et tous les lieux. À l'Eucharistie, le Christ est présent de multiples manières. D'abord dans sa parole, dans la prière de son Église, dans les fidèles, dans le sacrement dont il, le Christ, est l'auteur et en la personne du ministre. Mais au plus haut point, bien sûr, il est présent sous les espèces eucharistiques. On pourra se référer à la Sacrosanctum Concilium. Par la consécration du pain et du vin, s'opère donc le changement de toute la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ. L'Église l'appelle, alors c'est un mot un peu barbare peut-être à dire, transsubstantiation, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. On peut se référer donc à l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 56. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont intimement plus liés au Christ et unis au Christ. Par là même, donc le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps, qui est l'Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l'Église déjà réalisée au baptême.
Merci beaucoup Martine de cet éclairage très intéressant. La semaine prochaine, nous continuerons à parler des sacrements. À très bientôt pour l'émission Chanter pour le Seigneur.
Merci chers auditeurs, merci Emmanuel et merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
C'était Chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.